Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse, Loisirs, Plaisirs et Curiosités, le club du vendredi qui tente d'enchanter modestement votre vie quotidienne. Et ce matin, est-il encore temps de planter des fruits et légumes d'été dans son potager, que l'on dispose d'un balcon, d'une terrasse, d'un jardin ou d'un espace collectif? Nos invités, Lola Perrier, Philippe Collignon et Goran le permaculteur, partageront leurs conseils et leurs astuces pour un potager coloré. Notre chef Grégory Cohen vous proposera une recette végétale et gourmande, et Christina Pelédouel, un livre à dévorer ce week-end. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre chronique philo ?
Eh bien, on fait simple, dans le thème, question jardiner rend-il heureux ?
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Alors, qui deviendra notre ami cette semaine ?
Écoutez, c'est une bestiole obsédée. Je pense que si vous la mettez dans votre potager, vous avez en même temps un petit divertissement comique.
C'est pas notre invité Philippe Collignon ?
Non. Je suis en train de regarder si physiquement. Non.
Bienvenue dans Grand Me Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rebéi.
Notre chef qui prépare l'ouverture de plusieurs restaurants à Rungis dans le Val-de-Marne. Petit avant-goût de votre recette très végétale.
Ben, on part dans le sud pour une recette d'inspiration niçoise avec des petits farcis. Mais des petits farcis aux légumes.
Bonjour Christina Pelédouel.
Bonjour Ali.
Journaliste indépendante et l'autrice chez Marabout de ces livres qui nous font du bien. Bande-annonce de votre choix littéraire.
Eh bien, c'est un livre un peu particulier dont je vais vous parler aujourd'hui. Un livre kaléidoscope signé d'une journaliste que nous aimons beaucoup et que vous invitez de temps en temps dans l'émission et qui s'appelle Flavia Mazelin-Salvi. Ça parle de Corse, de légumes et de cuisine.
Magnifique. Jean-Pierre, est-ce que tu aurais quelques aubergines à maturité ?
Eh bien, écoute, elles sont devant toi.
Si tu peux me trouver des aubergines plutôt droites et pas trop arrondies, ça m'arrange.
Mais regarde, est-ce que des petites comme ça, là, ça t'arrange ? Des belles aubergines ?
Les barbantanes, ça.
Voilà, tout à fait.
Très bien. Hein, ah bah, c'est magnifique, c'est exactement ce qu'il me faut. Tiens.
On ne les cueille pas trop grosses. Hein.
Très bien, merci. Ouais. Est-ce que tu aurais... Pas forcément, non. J'aurais bien aimé avoir une autre variété.
Alors,
est-ce que tu en as d'autres,
oui,
d'autres couleurs ?
J'ai une autre variété qui est les zébrés.
Zébrés, tu en as, mais voilà. Est-ce qu'elles sont assez grosses ?
Oh oui, au potager de Lunas, t'as tout ce que tu veux.
Je vois ça. Oh oui, elle est belle.
Un extrait des potagers de Julie diffusé sur France 3. Et quoi de meilleur que de cuisiner ces légumes du potager ? Et ce ne sont pas nos invités qui diront le contraire. Bonjour Philippe Collignon.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste et chroniqueur jardin dans Télématin sur France 2, ancien professeur de botanique et de biologie végétale en lycée agricole et horticole, et vous avez publié le petit guide du carré potager ainsi qu'un potager pour les nuls chez First. Bonjour Goran, puis Galias Goran le permaculteur. Comme son nom l'indique, vous êtes permaculteur et votre compte Instagram très très suivi, c'est le permaculteur. C'est quoi un permaculteur en deux mots ?
C'est quelqu'un qui pratique la permaculture.
Et c'est quoi la permaculture ?
Merci beaucoup Goran. Et la permaculture, bah, c'est un modèle agricole qui s'inspire du fonctionnement de la nature et qu'on va du coup implanter dans un schéma de culture pour cultiver des fruits, des légumes et aussi élever des animaux.
Ouais. Et vos vidéos sont très très bien faites et donc très suivies. Bonjour Lola Perrier.
Bonjour.
Vous êtes agricultrice, maraîchère, food gardener. En bon français, ça veut dire jardinière de cuisine. Vous collaborez donc à l'émission Les Potagers de Julie. Et vous publiez chez Marabout un potager haut en couleur. Cultivez la variété tomate violette, laitue rosée, radis jaune. Est-ce qu'il est trop tard, Lola Perrier, pour planter des aubergines ou des tomates ou des laitues dans son jardin ?
Alors pour semer des aubergines, oui, ça va être un petit peu trop
tard.
Là, le temps qu'elles grandissent et ensuite de les mettre en terre, à mon sens, c'est un tout petit peu trop tard, sauf si vous les achetez déjà prêts en jardinerie. Dans ce cas-là, il faudra les planter après les fameuses saintes glaces vers la mi-mai. Mais sinon, il reste tout un tas de choses encore à semer. Tout plein de fleurs, tout plein de choses. Les haricots, d'ailleurs, vont bientôt arriver aussi. Les courges. Non, vraiment, il y a encore plein de choses.
Bon, vous me rassurez, Lola Perrier. Tiens, pourquoi est-ce que vous vous êtes passionnée pour le potager les uns les autres? Lola Perrier, c'est venu comment cette passion potagère?
Alors moi, c'était un petit peu un hasard parce que dans ma première vie, j'étais agent d'artiste, donc ça avait vraiment strictement rien à voir.
Rien à voir.
Et puis un jour, j'ai réalisé que j'en avais vraiment marre de travailler derrière un ordinateur vissé sur mon siège. J'avais envie de vivre à l'extérieur et j'étais vraiment passionnée de nourriture. Voilà, j'adorais manger, faut le dire. Et du coup, je me suis un petit peu intéressée à ce qu'il y avait avant tout dans mon assiette, et j'ai réalisé de manière un petit peu honteuse que je ne connaissais strictement rien à ça. Je ne savais pas comment pousser une carotte, comment pousser un radis. Et du coup, je me suis initiée dans mon coin toute seule, d'abord, dans un premier temps. J'ai lu une montagne de livres avant de me former, de me lancer là-dedans.
Et vous, Goram?
Bon, moi, pareil, hein, c'est vraiment par hasard.
Vous êtes tout jeune, vous avez quel âge?
Moi, j'ai 22 ans tout juste, là, je les ai eu en janvier. Et en fait, c'est surtout que je me suis vu un peu rentrer dans un schéma classique, après les études, un métier conventionnel, tout ça. Et au final, c'est vrai que le Covid est arrivé en plein début de mes études, du coup.
Vous aviez entamé des études de quoi?
De philo. Après, je voulais faire de la psycho, et au final, du coup, j'ai tout plaqué.
Et quel a été le déclencheur, justement? Donc, le Covid, mais qu'est-ce qui s'est passé en vous, psychologiquement, pour que vous décidiez de vous passionner pour le potager, pour la permaculture?
Une véritable quête de sens, au final, besoin d'avoir un sens dans ma vie, et le fait d'avoir le Covid, en fait, a fait que j'avais quasiment plus cours. Donc, du coup, en fait, j'avais quasiment plus de sens. Je lisais des PDF toute la journée, mais du coup, au final, je les lisais même pas parce que ça m'intéressait pas. Et du coup, je suis parti dans une recherche de ce qui pouvait m'animer, ce qui pouvait me plaire, et c'est la permaculture qui a pris le dessus, quoi.
Comment vous vous êtes formé ?
YouTube, des livres, des fiches de cours de lycée agricole, horticole, puis après, du coup, l'expérience terrain, les multiples erreurs qui ont pu être faites.
Et vous, Philippe Collignon, l'intérêt, ça a été d'abord le jardin d'ornement ou le potager ?
Moi, je suis tombé dedans quand j'avais 5 ans, donc ça fait... je suis un vieux baroudeur, hein, à côté de ces deux...
Internet
n'existait pas, on n'y pensait même pas. Donc, c'était à l'époque, mon grand-père, un jardin d'ouvriers, 5 ans, voilà. Donc, c'était vraiment les rangs, c'est pas du tout la permaculture à l'époque, c'était les 30 glorieuses dans les produits phytosanitaires. Donc, en fait, en tout cas, ça m'a donné la passion dès 5 ans. Ensuite, à 10 ans, j'avais appris tous les noms latins sur les magazines de VPC. Ensuite, j'en ai fait mes études. Moi, j'ai eu un revirement à l'âge de 5 ans. Après, ma vie a été assez droite au niveau de l'agriculture. J'ai fait du maraîchage, j'étais prof, j'ai fait du paysage. Donc, moi, ma vie a toujours été remplie de feuilles, de racines, de jolies rencontres.
Et vous, dans vos vies respectives, quelle a été l'influence familiale pour vous intéresser au potager, Goram?
Moi, c'est surtout le fait que j'ai grandi à la campagne. Alors, pas du tout avec des parents agriculteurs, mais vu que je vivais à la campagne, j'étais au contact des chevaux. C'était pas un tracteur qui entretenait mon terrain quand j'avais 5 ans, c'était des chevaux. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai toujours été au contact des animaux. À 8 ans, je passais le tracteur tondeuse dans le jardin. Donc vraiment... une habitude, quoi, qui s'est faite, quoi.
Et vous, Lola Perrier?
Moi, c'est vraiment différent parce que j'ai grandi proche du béton à Paris. Donc, je dois surtout ça à mon père qui m'emmenait toujours sur les marchés. Et je suis littéralement amoureuse des marchés et des produits qu'on peut y trouver. Et c'est ça qui m'a initiée à ce projet-là.
Et vous, Grégory Cohen, parce que vous avez un vaste potager également?
Oui, j'ai la chance d'avoir une serre de 70 mètres carrés, un potager d'à peu près 400 mètres carrés et puis une quarantaine d'arbres fruitiers qui commencent à donner justement maintenant. Donc c'est assez génial. En fait, c'est l'émerveillement du vivant qui chaque fois pointe son nez, évolue. Le fraisier qui la première année va donner peu de fraises, puis la deuxième année d'un seul coup va nous régaler en en balançant trois fois plus. Les tomates qui vont venir se gorger, goûter des tomates d'un potager, ça n'a rien à voir, on retrouve des goûts, des vrais goûts, et ça, c'est ça qui change tout.
Lola Perrier?
Il y a quand même quelque chose de magique, je trouve, quand on commence à semer et qu'on voit cette plante évoluer, déjà on s'y attache comme un enfant, c'est quand même assez étrange, on la borde, on lui met une couverture, on fait attention que la température soit parfaite, qu'elle n'ait pas soif, et puis finalement quand cette plante nous donne enfin un fruit, parce que c'est le terme botanique, mais c'est l'émerveillement le plus absolu, vraiment le plus absolu. Moi, j'ai une fierté immense de pouvoir manger les produits que je crée. Ça, c'est magique.
Goram?
Moi, j'ai envie de dire, c'est une joie, mais c'est une grande déception dans le sens où en fait, je me rends compte qu'il y a plein de légumes en fait qui existent, plein de variétés. Au final, un légume qu'on dit bah j'aime pas tel légume, au final, suivant la variété, on peut l'aimer. Et quand je dis déception, c'est vraiment le fait que en fait tout le monde devrait pouvoir manger des produits comme ça. Et quand je vois les tomates qu'on mange du commerce, bah ça me dégoûte quoi. Concrètement.
Ouais, ouais, moi je te rejoins aussi là-dessus parce que j'ai écrit ce livre en partant de ce constat-là. En allant sur les marchés, j'avais l'impression que tous les produits qu'on me proposait étaient les mêmes, qu'il y avait une espèce de standardisation en fait de tout ça. Alors que quand je me suis initiée à ce métier, je me suis aperçue qu'il y avait une quantité phénoménale de variétés. Ne serait-ce que par exemple pour les tomates. Il y a 15 000 variétés recensées, ouais. Donc il y en a bien plus. Et pourtant, en supermarché ou sur les marchés tout court, on nous propose systématiquement que des tomates rondes. C'est un peu triste et c'est dommage.
Non, puis surtout des tomates qui résistent 3 semaines en bas du frigo, qui sont dures comme du bois, qui n'ont aucun goût, mais elles résistent à l'écrasement. Donc c'est ça l'idée aujourd'hui des grandes surfaces. Et surtout, vous parliez de philosophie, de psychologie tout à l'heure. En fait, le jardin, c'est un lieu où on peut se tromper, où on vit le présent, où on apprend de la nature humaine, parce que quand on observe la nature, on apprend aussi de la nature humaine, ça nous rend aussi philosophe, ça nous rend psychologue, et on apprend vraiment des choses, même si on se trompe. C'est ça le jardin, c'est trompez-vous, vous avez le droit.
Et vous, Goran, dans vos vidéos, vous n'hésitez pas à parler de vos ratages, de dire, ben voilà, j'ai raté.
Justement, en fait, je pense que surtout dans le jardin, en fait, c'est aussi les erreurs qui permettent de mener à des réussites. Il n'y a que l'échec, en fait, qui mène au dépassement de soi, et j'ai aucun tabou à parler des échecs, quoi.
Puis l'avantage, c'est que quand on fait des erreurs au potager, en tout cas, les légumes ne nous engueulent pas ensuite.
Lola, le potager, ça peut commencer avec un tout petit bout de balcon, une petite terrasse, parce que beaucoup de gens n'osent pas se lancer dans la culture potagère, parce qu'ils se disent « Ah, ben j'ai pas la place ». Mais oui, sur un balcon, on peut planter des tomates.
Bien sûr, il faut pas avoir peur du tout de s'expérimenter à quelques semis dans une balconnière. Vraiment, c'est à la portée de tous. Et je cite, par exemple, dans mon livre, cette femme, Valérie Timbaud, qui a créé sur 5 mètres carrés ou 4, je ne sais plus, mais une quantité phénoménale de légumes, elle est un exemple.
Et vous donc, n'avez pas vu sa chambre, hein. Sa chambre c'est un lieu de culture aussi. Hein.
Oui, mais là-dessus, je ne peux pas juger parce que moi-même,
j'ai vu sa chambre, je suis allée chez elle, donc voilà.
je pourrais pas me permettre de juger parce que chez moi, en ce moment, il y a quand même 2 tentes de culture avec à peu près 150 plantes. Donc je ne juge pas.
Allez, dans quelques instants, nous verrons ce qu'il est encore temps de semer en mai-juin pour avoir de beaux légumes cet été. Je suis un peu déçu, pas d'aubergines, hein, visiblement.
Mais peut-être
d'autres légumes à planter en ce mois-là. En attendant, place au livre avec Christy Lapelle-Edouelle. Alors, Christina, vous avez choisi un joli livre de Flavia Mazzolin-Salvi, ça s'appelle Francardo Nagori, aux éditions Punto e Basta.
Ah, Punto e Basta, c'est pas joli, ce nom d'édition, ce sont des éditions corse. Évidemment, vous vous en doutez, ça veut dire un point c'est tout. Et un point c'est tout, alors Flavia Mazzolin-Salvi, qui est elle-même corse, ô combien, est journaliste de métier, mais elle est aussi créatrice, elle fait des tonnes de choses, elle brode, elle peint, elle dessine, elle écrit. Elle écrit de la poésie, elle écrit des romans, elle écrit des essais. Et aujourd'hui, ce livre, alors je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, parce que moi j'ai suivi le processus depuis le début. C'est-à-dire qu'au début, Flavia, que je connais bien et depuis longtemps, voulait évoquer son enfance dans la maison de sa grand-mère en Corse. J'ai lu les premières pages, c'était magnifique. Mais Flavia trouvait qu'il manquait quelque chose. Et ce qui manquait, c'est ce qu'elle a compris après, le jour où elle a cuisiné une omelette au brooch et avec de la menthe.
Oula.
Et en sentant l'odeur de cuisson de l'omelette au brooch et à la menthe, d'un seul coup, ça l'a renvoyé dans le jardin de sa grand-mère, dans la maison de sa grand-mère, et elle s'est dit, mais c'est pas ça qu'il faut faire, il ne faut pas du tout rester complètement cérébral, il faut que j'écrive un livre qui permet, comme un kaléidoscope, de ressentir, de voir et de comprendre les facettes d'une enfance et de souvenirs d'enfance. Donc, dans son livre, elle a inséré des photos de sa famille, mais ça c'est assez banal, mais elle a inséré des broderies qu'elle a faites, qui sont maladroites, elle-même elle dit je sais pas très bien broder, mais la couverture est magnifique, des torchons, la roulette à pâtisserie de sa grand-mère, des tickets de course. Bref, un livre, elle a voulu en faire un objet. Parce qu'elle dit une chose qui
est vraiment... C'est un très bel objet.
Ah, c'est un très bel objet. Et elle dit une chose qui est vraiment tellement, tellement juste. Elle dit, il y a des choses qu'on ne peut pas restituer avec des mots. Il y a des choses qui sont des sensations. Et les sensations d'enfance sont les plus prégnantes, les plus importantes. Donc voilà. Alors la résurgence des sensations, c'est ce qu'elle a voulu donner. Et c'est ce qu'on retrouve. Alors... La Corse est au centre, évidemment, de ce livre, mais ça parle de toutes les enfants. C'est-à-dire que vous ayez été élevé en Bretagne, en Italie ou en Corse, vous retrouvez la même chose. Ce lien, et ce lien aussi avec sa grand-mère, avec les joies des dîners ou d'aller traîner dans le jardin, de ramasser justement les fruits et les légumes, de faire la confiture avec sa grand-mère, et puis toute cette langue... Corse, parce qu'il y a aussi des poèmes en français, en Corse, bref. Ce livre, c'est une merveille. Je voudrais dire un mot du titre, parce que Francardo, c'est le nom du village de sa grand-mère. Et Nagori, c'est une expression japonaise qui veut dire exactement la trace, la présence, l'atmosphère d'une chose qui n'est plus. C'est ça qu'elle a voulu restituer. C'est un livre merveilleux. Et puis alors, bien sûr, cette maison d'édition Punto et Basta qui était tellement...
Ne serait-ce que pour ça.
Oh, mais ne serait-ce que pour ça. Mais vraiment, faites-vous plaisir, offrez-vous ce livre. Et ça a été édité par une éditrice corse qui fait, je le dis parce qu'elle fait un travail vraiment remarquable, qui s'appelle Gino Castoriano. Je vais mal prononcer, certainement. Mais vraiment, morceau d'enfance.
Offrez-vous ce livre et offrez-le autour de vous. Ça s'appelle Francardo Nagori. C'est signé Flavia Mazzolin Salvi et c'est publié aux belles éditions Punto et Basta. Allez, restez avec nous, Christina. Il est temps de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger. Et
évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette, qui deviendra notre ami cette semaine?
Alors, cher Ali, j'ai pris les deux mots de la question d'aujourd'hui, hein, potager et trop tard. Et j'ai réfléchi pour être dans le thème. Alors, mon ami m'est apparu comme une évidence. C'est une bestiole qui arrive toujours trop tard pour choper son fruit. Il le déterre, il l'attrape, il le relâche. Il en devient littéralement dingue. Scrat, l'écureuil très préhistorique de l'âge de glace. Alors, c'est le névrosé en chef, hein, le père de tous les monomaniaques.
Oui.
Son gland, il le veut, il l'aura, coûte que coûte, quitte à provoquer la dérive des continents. Non, rien que ça. Pour serrer son fruit défendu, il saute, il se contorsionne, il pousse des petits cris de désir et ou de frustration. Il fait exactement comme ça, Scrat, j'ai vraiment répété.
C'est vrai.
Il glisse, il se cramponne, il reglisse, il s'élance, il se plante. Enfin, jamais on a vu une créature plus hilarante dans un dessin animé. Jamais. Le caoutchouc, je pense, a été inventé avec son ADN, hein, c'est sûr. Et dire qu'au départ de la saga, en 3D, cet obsédé aux yeux exorbités devait juste ouvrir le premier film et puis finir écrasé. Mais Chris Wedge, le réalisateur, comprit rapidement que Scrat était la créature burlesque et philosophique la plus attachante de l'histoire de l'animation. C'est lui, en fait, qu'on attendait dans chacun des 5 films. Et il eut droit à ses propres courts-métrages, y compris, ça je vous invite à le regarder sur internet, y compris une parodie pas piquée des hannetons de The Artist, qui s'appelle The Scratist.
Alors pourquoi, Guillemette, votre ami est-il aussi burlesque et philosophique?
Alors, le cher Thibault, je l'espère, sera de mon avis. Scrat et son gland, c'est Sisyphe et son rocher. L'un fut condamné par les dieux à faire rouler éternellement un gros caillou jusqu'en haut d'une colline avant que le machin ne dégringole encore et encore et Sisyphe recommençait encore et encore. Et l'autre, mon ami, y tient enfin son gland contre son cœur. Et puis non. Non ! Et c'est reparti indéfiniment. À côté de lui, les chevaliers de la table ronde sont des glandeurs. Bon. Sa quête du gland est la plus frénétique des quêtes du Graal. Au point d'y sacrifier sa vie de couple, hein. Installé avec Scratina dans un arbre, où d'ailleurs la belle lui fait tout le temps changer de place le canapé, hein, ça c'est vraiment très très drôle aussi, Scrat regarde par la fenêtre et voit l'objet de son éternel désir. Son gland lui manque tant. Il sort le récupérer et quand Scratina s'en mêle, il la pousse dans le vide. Ouais, il y a des mecs, ils n'hésitent pas entre leur femme et l'amour de leur gland. Alors, voilà. Bon. Et pour le burlesque, c'est simple, Ali. Puisque Scrat est un ressort comique, mais au sens propre, au sens totalement propre. Il se tend, il se détend, il se retend, il rebondit. C'est un ressort. Plus élastique que Jim Carrey, plus trompe-la-mort que Harold Lloyd, plus nerveux et borné que Louis de Funès. Regardez le trépigner et contorsionner son nez. On dirait vraiment que Funès dans Oscar. Alors, quelques jours avant la fin de Blue Sky Studios, racheté par Disney, une petite équipe d'animation s'était donc réunie pour réaliser le dernier plan de la saga L'Âge de Glace, dans lequel l'écureuil Scrat mange, enfin, son gland, 20 ans après le début de sa quête. Franchement, c'est la meilleure scène d'adieu d'une saga. Avec un type qui arrête de faire une fixette sur son gland, ben on sortait enfin de la préhistoire.
Un commentaire, Grégory Cohen. Je crois que vous souhaitez que, que Guillemette refasse l'imitation de Scratch.
J'aimais beaucoup, ouais. Je pense que c'est bien. Tu peux nous la refaire, Guillemette?
Ah non, une fois seulement.
Merci beaucoup, Guillemette. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Lisiane Larbani, Joachim Taïeb et Cyrine Ben-Younes, avec l'aide de Charles Thierry, à la réalisation Claire Destacan et Josépha Lebrun, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Merci aux documentalistes, aux standardistes et aux techniciens qui se sont succédés tout au long de la semaine. Dans un instant, que semer en mai et juin pour avoir de beaux fruits et légumes cet été? Ce sera juste après avoir écouté Les Mamas et les Papas, California Dreamin', une chanson sortie en 1965. Les mamas et les papas, California Dreaming.
Ah, alors, puisque vous êtes le chef cuisinier, vous allez m'attraper des pommes de la terre et nous faire des frites.
Grand bien vous fasse.
Des pommes de terre?
Non, des pommes de la terre. D'où c'est qu'elles viennent, les patates?
Sur France Inter.
De la terre?
Bah oui, elles viennent pas du le ciel.
Grand bien vous fasse, loisir, plaisir, curiosité. On se demande que planter en mai-juin pour des fruits et légumes cet été avec Lola Perrier, Philippe Collignon et Goran le permaculteur. Donc Philippe Collignon, il n'est pas trop tard pour des semis qui donneront de beaux légumes d'été. Qu'est-ce qu'on peut planter en ce moment ?
On peut planter beaucoup de choses. On peut planter des radis, des carottes, des poireaux d'hiver. On peut semer pas mal de choses. On peut aussi planter, si on n'a pas eu le temps de semer, ben on peut planter les tomates. Ça a pris les seins de glace assez formidables. On peut planter les aubergines, les courgettes. On peut planter beaucoup de choses. On plante, évidemment, et on semis. On peut faire pas mal de choses. L'idée, c'est aussi de semer et puis de semer régulièrement. C'est-à-dire que les radis, vous les semez toutes les semaines. Comme ça, vous avez une régularité. On peut les semer entre les carottes, ce qui permet aussi d'avoir un espace entre les carottes. Donc on peut faire aussi, on appelle ça de l'interculture. Entre les tomates, on peut y mettre du basilic, des tagettes, on peut mettre pas mal de choses. Donc on peut y faire un peu sa sauce. Là, c'est vraiment la bonne période. On a passé les seins de glace, c'est parfait.
Prenons l'exemple des radis. Comment je m'y prends ?
Bah, c'est tout simple. Hein. Il suffit d'avoir un sol très, très émietté, humifère évidemment. On les somme en surface, on recouvre légèrement. Moi, j'aime bien pailler mon potager. Parce que déjà, ça empêche les adventices de pousser plus rapidement. Ça maintient le sol au frais. Mais c'est surtout que, en fait, quand on veut se lancer dans le potager, hein, vous me direz si c'est OK, mais c'est de tout part du sol. Si on ne connaît pas son sol, on ne peut pas être un bon permaculteur ou un bon jardinier. C'est-à-dire que le sol doit être vivant, présence de vers de terre, qui doit être drainant. Donc, tout part du sol.
Lola Perrier.
Oui, si on m'avait dit un jour que le ver de terre serait mon meilleur ami, franchement, j'en viens pas, alors que maintenant, dès que je les vois, je les applaudis. Mais c'est vrai, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, tout part du sol. Alors moi, je ne paille pas parce que, bon, je cultive sur 2000 mètres carrés, donc pailler, ça va être un petit peu compliqué. Enfin, c'est tout à fait faisable, mais en réalité, j'ai une petite pression de limaces, donc j'ai arrêté de pailler avec des matières naturelles. Du coup, je paille avec une espèce de plastique biodégradable. Certes, laid, je l'accorde, oui, le plastique, ça n'est pas écologique, sauf si on s'en sert sur plusieurs années.
Il y a du plastique à base de maïs, donc ça c'est quand même pas mal.
Goran, le sol, comment fait-on quand on n'a pas beaucoup de connaissances? Comment savoir si c'est un bon sol? Est-ce que vous avez la présence de vers de terre, bien sûr?
Déjà, la présence de végétation, déjà, si on n'a rien, pas d'herbe, rien du tout.
C'est assez mauvais signe, effectivement.
C'est mauvais signe, il y a quelque chose à faire peut-être. Et sinon, l'idéal en vrai, c'est de prendre une pelle, creuser un petit trou pour voir un petit peu la structure du sol, déjà voir s'il est plus composé d'argile ou plus de sable. Déjà, si vous mettez un coup de pelle et que c'est une mission pour rentrer dedans, c'est qu'il y a probablement beaucoup d'argile dedans, alors que si ça rentre comme dans du beurre, c'est probablement pas mal de sable.
L'argile n'est pas l'ami du potager ?
Alors si, justement, il n'y a pas d'ami, d'ennemi, c'est surtout l'équilibre en fait qui est un ami. Trop d'argile, c'est problématique, trop de sable, c'est problématique, mais...
Pourquoi ?
Parce que si on a trop de sable, on a une mauvaise rétention des nutriments, une mauvaise rétention de l'eau. Alors oui, l'eau s'infiltre, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas disponible, enfin beaucoup moins disponible pour les plantes. Et l'argile, elle, par exemple, s'il y a trop d'argile, justement, le problème, c'est qu'on va avoir des terrains qui seront ruisselants, qui vont être tassés, difficiles à travailler. On va casser le matériel souvent, mais par contre en termes de fertilité, c'est vrai que c'est intéressant. Quoi.
Lola Perrier.
Oui, c'est vrai que ça commence d'abord par une observation de son terrain et des plantes qui y habitent. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle l'Encyclopédie des plantes bio-indicatrices de Gérard Dusserf, si je ne dis pas de bêtises, que je vous invite tous à lire, qui va vous indiquer en fonction des plantes présentes sur votre terrain la nature déjà apparente de votre terrain. Par exemple, si vous voyez des chardons ou de la prêle, c'est mal barré, je suis désolée. Ça veut dire que votre sol est très tassé et vous allez mettre des années avant de vous en séparer.
Le chien d'or, le liseron, c'est pareil. En revanche, il est riche en azote. C'est-à-dire qu'il peut être tassé, mais il peut être riche en quelque chose. Donc,
absolument.
Attention.
Je préfère avoir du chien d'or que de la prêle, je vous le dis tout de suite.
Alors, imaginons que nos auditeurs aient envie de se lancer dans un potager en ce joli mois de mai. Quelles sont les bases, les fondamentaux? Donc, on a vu l'observation du sol. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Philippe Collignon?
D'abord, si le sol est bon, c'est parfait. Si le sol est moins bon, moi je vous invite à faire de la lasagne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va prendre le sol tel qu'il est. Il est pas bon, il est pas bon. Alors soit on se fait des petits potagers au carré, donc on rehausse le sol avec du terreau, de la bonne terre, etc. Soit on fait de la lasagne. Et ça c'est très bien.
Alors, c'est quoi? Expliquez-nous.
Alors lasagne c'est quoi? On va mettre des couches de carton non ancrées, c'est important parce que l'encre c'est pas indiqué lorsqu'on fait de la lasagne. Donc on met une couche de carton, une couche de déchets de tonte, une couche de carton, une couche de déchets de taille. Donc on va monter comme ça avec du terreau, etc. Mmh. On va monter comme ça sur 50, 60 centimètres et on va cultiver en dessus. Et cette lasagne va, en fait, petit à petit descendre au cours de la saison et on peut commencer comme ça à cultiver sans aucun problème. Donc, il faudra beaucoup d'eau, mais ça va aussi enrichir petit à petit votre sol. C'est-à-dire qu'il faut cultiver, mais penser à « je fais du bien à mon sol ».
Lola Perrier.
Oui, absolument. Et puis pour les gens qui n'ont pas la joie, en fait, d'avoir ne serait-ce qu'un petit bout de terrain, vous pouvez aussi investir ou construire vous-même des bacs potagers que l'on remplit tout simplement de compost que l'on va acheter en jardinerie. Bon, ça voilà, ça va être la solution la plus simple. Mais disons que l'année suivante, vous allez voir que votre sol ne va pas être exceptionnel. Donc il est beaucoup plus avantageux de construire une lasagne dans votre bac, donc d'alterner des couches de carbone et d'azote, plutôt que d'acheter du compost en jardinerie. Mais ça peut tout à fait faire l'affaire pour la première année.
Ce qui est important également, bien sûr, c'est l'exposition au soleil. Au moins 6 heures par jour ou davantage.
6 heures par jour, éviter les grands vents, parce que le potager n'aime pas non plus d'être en plein vent. Donc des petites haies qui vont briser les vents, enfin pas, qui ne vont pas les bloquer, mais qui vont les briser. Il faut que l'air circule quand même. Et puis, la biodiversité, c'est important. C'est-à-dire mélanger les légumes avec les fleurs. Aujourd'hui, c'est un peu un micmac de tout ça. Mais avec tout ça, on a un équilibre. Et puis, ne pas hésiter à se dire, bon, mais cette plante, on en parlait tout à l'heure, je vais la sacrifier aux pucerons, aux cochenilles. C'est pas grave, les autres sont en pleine forme. Voilà, il faut ce qu'on appelle, comme pour le whisky, la part des anges, eh bien il faut la part de la naturalité dans son jardin. Il y a une partie qui va disparaître.
Pour bien nourrir son sol, on l'a dit, vive les vers de terre, et puis il ne faut pas hésiter à donner un petit coup de pouce avec de l'azote, du phosphore, du potassium. Et vous, Goran, vous êtes un grand spécialiste du recyclage, notamment recycler les pots de bananes ou les épluchures d'oignons. Racontez-nous comment ce recyclage peut aider à donner du tonus, de la force à sa terre.
En fait, je pense que ces petites astuces recyclage, c'est des astuces qui permettent bien évidemment d'apporter des nutriments pour les plantes, pour le sol. Mais en fait, c'est surtout que ces petites astuces, quand on va les faire, on va se rapprocher de nos plantes. On va aller voir notre potager, on va aller mettre le purin au pied du pied de tomate. Et en faisant ça, on va passer plus de temps dans le jardin. On va à la fois limiter des déchets alimentaire, mais aussi on va pouvoir avoir un œil plus ouvert sur les problématiques qu'il peut y avoir au potager.
Prenons l'exemple de la peau de banane, riche en potassium et en calcium. Comment on s'y prend pour justement préparer votre potion magique ?
En fait, moi par exemple, la peau de banane, ce que je fais, c'est que soit directement je la mets au compost, soit pour la rendre disponible pour les plantes, ce que je fais, c'est que je la laisse macérer par exemple dans un litre d'eau au soleil pendant 24-48 heures, et puis après je viens arroser mes plantes avec, et le reste de banane, soit je remets un peu d'eau, comme ça me refait une petite préparation qui sera peut-être moins concentrée. Et après, je mets au compost.
Et les épluchures d'oignons ?
Et les épluchures d'oignons, là, il va y avoir une utilisation, si on fait vraiment un purin très concentré où on le laisse plusieurs jours au soleil, on va avoir ce qui peut être un antifongique naturel. Alors, c'est pas aussi redoutable qu'une bouillie bordelaise, par exemple, mais en traitement préventif, c'est mieux que rien. Et comme je dis toujours, c'est mieux dans le pulvérisateur, dans le compost qu'à la poubelle.
Et c'est un bocal de 50 centilitres d'eau avec des épluchures d'oignons et on laisse macérer pendant 24 heures, c'est ça ?
24, 48 heures.
Lola Perrier ?
C'est quand même plus rapide que de préparer son purin d'ortie, qui est un peu la potion magique ultime au jardin et accessible
ça
à tous.
Ça sert à quoi le purin d'ortie ?
En fait, ça va booster vraiment la croissance de la plante, ça va aussi la protéger des maladies, ça la rend vraiment plus forte. Donc pour ça, il suffit d'aller couper, mettre des gants, mettre des gants avant toute chose et aller couper des orties fraîches qui ne sont pas montés à fleurs, et vous les mettez dans un récipient, il faut à peu près 1 kilo de plantes fraîches pour 10 litres d'eau de pluie de préférence, et vous laissez macérer ça dans un coin de votre jardin, parce que je suis désolée de vous l'annoncer, mais ça pue, c'est absolument épouvantable.
Ça s'appelle purin d'ortie.
Voilà.
Quelles sont vos règles en matière d'arrosage, les erreurs à éviter ?
Le surplus. Le surplus, parce qu'en fait, plus on arrose, moins la plante va développer ses racines et aller chercher en profondeur. Et nous, on veut absolument que les racines aillent percer ses profondeurs pour aller chercher un maximum de nutriments. Donc il faut en fait limiter ces arrosages, vraiment.
Et on n'arrose pas n'importe quelle heure.
Et on n'arrose surtout pas en plein cagnard. On arrose de préférence le matin et le soir, quand les stomates, les petits trous dans les feuilles des plantes sont ouvertes. Et oui, c'est préférable de le faire à ce moment-là.
Christina.
J'ai une question à poser. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un, moi, en l'occurrence, je me suis complètement découragée. J'ai fait un potager une année, ça a été une catastrophe. Par quoi on peut recommencer de vraiment très simple ?
La salade.
La salade.
La salade et le radis, c'est un peu le béaba.
Racontez-nous comment on s'y prend, Lola.
Alors, la salade et le radis, ce sont deux légumes qui ont des cycles très très courts, donc à peu près 25 jours, on va dire. Donc si vous le ratez, au moins vous pouvez le recommencer très très vite. Et puis sinon, quand on part d'un terrain vierge, l'idéal c'est de commencer par des pommes de terre ou des courges, qui sont pas des cultures si exigeantes que ça. Faut faire attention, bien sûr, hein, mais c'est pas des cultures si exigeantes.
Grégory, et sur la salade, attention, parce que moi je l'ai fait au tout début. Le piège, c'est de tout planter en même temps, parce que tu te retrouves après avec 25 salades à manger avant que ça monte en fleurs.
Tu en donnes partout.
T'es vraiment mal. Alors tu offres, tu deviens le meilleur ami de tous tes voisins. Ça c'est chouette, mais ça a des limites.
Alors Philippe Collignon, rappelons que les légumes se divisent, allez, grosso modo, en deux grandes catégories, ceux qui aiment le frais et ceux qui aiment la chaleur. Les légumes qui aiment le frais, c'est quoi? C'est la salade, les épinards, les petits pois?
Les sols frais, oui, c'est ça, les épinards, les petits pois. Donc il faut
les brocolis, les choux.
Exactement, il faut que le sol soit légèrement humide, etc. Donc le paillage, donc ça c'est important. Et puis d'autres, des plantes plutôt méditerranéennes. Donc là, le topinambour peut supporter la sécheresse, le crône peut supporter la sécheresse. Moi, ce qui est intéressant aussi dans mon jardin, c'est que j'ai... Alors, c'est pas un grand jardin, mais ça suffit pour deux ou trois personnes. J'ai mis des légumes perpétuels. Les légumes perpétuels, c'est le poireau perpétuel, le chou perpétuel, vous le coupez, ça repousse. Et ça, pour commencer dans un jardin, c'est l'idéal, parce que ce sont des légumes, généralement qu'on dit anciens, qui résistent à beaucoup de choses, aux maladies, aux parasites et aux erreurs humaines. Et là, pour commencer, c'est bien parce que vous avez 100, 150 légumes anciens et vous pouvez déjà vous faire plaisir. Même si le poireau n'est pas aussi gros qu'un bleu de Solèze, au moins vous aurez le goût du poireau et la joie de le récolter.
Il y a donc, on l'a dit, les légumes qui aiment la chaleur. Haricots, tomates, poivrons, concombres, melons, citrouilles, maïs. Pour semer ou repiquer ces légumes, il faut vraiment attendre que l'air et le sol soit à la bonne température. Lola Perrier, ça c'est très important.
Ah, c'est même très très important. Moi je vis un petit cauchemar parce que j'ai dû retarder mes cultures la plantation de mes cultures à cause de ça. Il est très important pour certains légumes qu'on dit thermophiles, comme par exemple l'aubergine ou la tomate. Il faut, oui, absolument que les nuits ne tombent pas en dessous de 10 degrés, sinon vos plantes vont vraiment avoir du mal à démarrer.
Et le sol est important, c'est-à-dire que même si la température atmosphérique est élevée, le sol peut être en dessous, par exemple la tomate, de 15-16 degrés, donc il faut avoir un thermomètre, le planter dans le sol et voir qu'il a un sol argileux sera plus froid qu'un sol sableux au printemps, et en revanche il va conserver plus de chaleur un sol argileux en septembre-octobre qu'un sol sableux, donc il faut planter son petit thermomètre.
La tomate, c'est peut-être l'un des légumes les plus cultivés du potager. Lola Perrier, vous le dites dans votre livre, un potager haut en couleur, vous êtes une tomatophile. Dans votre serre, il y a 60 variétés. Hein, c'est une passion dévorante.
Cette année, il y en a même 80. Hein. Je m'étais promis de m'arrêter à 60 et j'ai pas réussi à résister à cette tentation. Et je suis complètement obsédée par cette plante parce que c'est une plante qui s'hybride. Donc c'est une plante qui donne une infinité de possibilités. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Mais d'ailleurs, je ne suis pas la seule. On est une petite communauté de tomatophiles. Je suis sûre que certains se reconnaîtront.
Il y a même une fête des tomates au mois de septembre au château de la Bordésière où il y a des centaines et centaines de tomates à découvrir.
C'est une culture exigeante, qui demande beaucoup d'attention. Quels sont vos conseils pour réussir ces plantations de tomates et pour en avoir de bien belles cet été ?
Je vais revenir déjà sur cette histoire d'irrigation. Il faut pas arroser systématiquement ces tomates tous les deux jours comme on le pense. Il faut le faire au départ à la plantation pour que la plante s'enracine vraiment. Mais en réalité, à l'apparition du troisième bouquet floral, il faut cesser. Il faut la faire souffrir un petit peu pour qu'elle aille chercher ses nutriments dans le sol. Donc ça, c'est mon premier conseil. Et le deuxième conseil aussi, c'est de bien veiller à l'espacement entre les plants à la plantation parce que la tomate, malheureusement, est un petit peu fragile par rapport au mildiou, cette maladie fongique. Ça c'est vraiment mes deux conseils.
La plantation, c'est 7 à 8 semaines après les semis, hors gelé, à partir du mois de mai, c'est ça ?
Oui, absolument, et en respectant un espacement de, sur le rang, on va dire, 50 cm, et entre les rangs, 80 cm.
Philippe Collignon, les erreurs les plus fréquentes quand on cultive des tomates ?
Moi, ce que j'aime bien quand je plante une tomate, je la plante pas comme une plante traditionnelle. Je couche la tige, j'enterre une partie de la tige, enfin bien sûr de la motte, mais de la tige, de manière à ce qu'elle émette des racines. Ça la rend, pour moi, mon grand-père me l'avait appris, et je crois que c'est ce qu'on fait encore, beaucoup plus forte, et ça lui donne de la force. Même si elle est plus basse, vous achetez une grande tomate, même si elle est plus basse, enterrée dans le sol, elle sera, moi je pense, plus rustique.
Oui, parce que tous ces petits poils que l'on voit, réalité, ne sont pas des poils. Non. Ce sont des débuts de racines.
Et donc, c'est l'idéal pour la rendre plus forte, notamment si on les plante avant les seins de glace.
Goran, vos conseils ?
Moi, mes conseils, ce serait ouais de privilégier des arrosages en bonne quantité, mais moins fréquents, donc moins tous les jours pour pas que la plante devienne dépendante. Un sol bien bien fertile, donc c'est-à-dire que quand on a un doute, on plante un trou, enfin on fait un trou, on met une bonne poignée de compost ou de terreau bien fertile à l'intérieur. Et derrière, bah ce qui va être intéressant, c'est de combiner notre plante tomate avec d'autres plantes, comme par exemple le haricot qui va fixer l'azote de l'air, qui c'est un engrais vert qui va enrichir du coup notre pied de tomate. Il y a aussi le basilic qui va être un peu une plante protectrice du pied de tomate, les œillets d'Inde aussi pour le puceron. Et surtout aussi, ce qui peut être intéressant avec le pied de tomate, c'est l'ombrager. L'ombrager, parce que quand on a des, par exemple, moi, en plein champ, quand il fait 40 degrés en plein mois de juillet, le problème, c'est que la tomate a vraiment très très chaud. Et moi, c'est pour ça que dans ces cas-là, moi, j'aime bien planter un peu plus serré, quitte à avoir un peu moins de tomates sur les pieds, parce que les pieds se font de l'ombre entre eux. Et derrière, avec une petite pergola ou quelque chose, on arrive à bien réguler la température. Et un autre point, pour l'irrigation justement, en cas de grosse sécheresse où on a vraiment très peu d'humidité à l'extérieur, limite ça vaut le coup en fait de pulvériser complètement les feuilles, même si c'est très peu préconisé justement, c'est quand les plantes ne transpirent plus en fait justement, il faut les aider, et c'est vrai que là la micro-aspersion est très intéressante pour éviter que les plants crament quoi.
Votre variété fétiche de tomate, Lola Peris, c'est la Sergeant Pepper.
La Sergeant Pepper. Ah
ouais. Elle ressemble à quoi ?
Je l'adore, elle a une forme de cœur. Et puis durant toute sa maturité, elle se pare d'une robe un peu violette comme ça, avant de finir bordeaux. Elle est sublime, elle est absolument sublime, j'en suis folle.
Moi, je suis fou de la tomate... ananas, moi elle me rend dingue, avec un filet d'huile d'olive, du vinaigre balsamique blanc, de l'origan, quelques graines de moutarde moulue. Là je suis ailleurs, voilà.
Oui.
Et d'ailleurs votre Sergeant Pepper, Guillemette me fait signe, elle est en couverture de votre livre. Hein.
Elle est sublime.
Elle est sublime, on dirait presque que c'est irréel.
Et ça ne m'étonne pas qu'elle s'appelle Sergeant Pepper, on dirait c'est un summum de tomate pop. Elle est incroyable.
Goran, votre variété fétiche ?
C'est la Nawin, c'est un mélange entre la tomate ananas et une super steak, donc ça fait des tomates ananas très, très grossières, très charnues et des fruits qui vont jusqu'à 600 grammes. Quoi.
Philippe ?
Moi je suis très classique, j'adore la noire de Crimée, elle est magnifique, elle est goûteuse, elle est sucrée.
Pour terminer, quels sont les légumes ou les fruits à planter en ce moment ? On profite là du mois de mai-juin. Philippe ?
Bah, lâchez-vous, vous pouvez tout planter. Hein. Semez, plantez, faites-vous plaisir. On peut s'éclater au potager. Maintenant.
Mais Lola nous a dit que les aubergines, c'était trop tard.
Non, en plan, vous pouvez acheter des plants en jardinerie. Vous avez encore des plants d'aubergines, de courgettes, de tomates, évidemment. Il y a tous les plants possibles en jardinerie.
Goran ?
Bah là, on peut se régaler, hein. Franchement, toutes les cultures de cucurbitacées, melon, pastèque, courgette, courge, là-dessus, on peut vraiment se régaler.
Il est encore temps, donc.
Ah oui.
Mais oui, c'est le top départ. Non, je voulais pas effrayer les auditeurs.
on met
à peu près 2 mois avant d'avoir un plant d'aubergine. Donc là, ça sera un petit peu trop tard, mais vous pouvez tout à fait en acheter un. Et puis maintenant. Bah, que les gelées sont enfin derrière nous, on va pouvoir semer mais alors une quantité de choses phénoménales, les haricots, les petits pois, et effectivement s'attaquer à tous ces légumes d'été qu'on aime tant, dont Goran vient de parler.
Et d'ailleurs, dans quelques instants, Grégory Cohen vous donnera une recette de petits farcis végétaux, mais il est l'heure de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Thibaut, on reste donc côté jardin avec une question. Jardiner rend-il heureux ?
Ben oui, Ali, parce que c'est pas une mince affaire le jardinage. Moi, je suis épuisé rien que d'avoir écouté là tout ce qu'on a dit. Il faut travailler presque tous les jours. C'est fatigant. Les plantations faites ne donnent pas donc toujours comme on l'espérait. Il y a les parasites, les aléas de la météo, un coup de gel, un coup de chaud, un orage de grêle. Et l'on peut perdre très vite donc la somme de tous ces efforts. Bref, ça fait beaucoup de soucis. Et pourtant, selon une étude donc IFOP de mai 22, il y en a peut-être une plus récente, mais je ne l'ai pas trouvée, presque les 3/4 des Français jardinent, 72%, potager compris donc, et ils voient le jardinage comme une source de plaisir. Alors, je ne suis pas vraiment, donc vous l'aurez compris, moi, un jardinier pratiquant, mais je peux comprendre le plaisir qu'il peut y avoir à faire son jardin ou son potager, à planter des fleurs, des fruits, des légumes, des arbres fruitiers, à tailler ses arbres, ses buissons, à tondre la pelouse, même à profiter des résultats que ça entraîne. Je dis le plaisir, mais si je lis l'ami philosophe Bergson, il faudrait plutôt parler de joie. Parce que Bergson distingue en effet le plaisir et la joie en faisant remarquer que le plaisir est le résultat de sensations agréables, là où la joie est le sentiment qui nous envahit produit quand nous créons quelque chose qui n'existait pas, ce qui a lieu donc quand nous faisons pousser, enfin quand vous faites pousser des tomates et des salades. Ainsi, le jardinage ne serait pas qu'un loisir manuel, mais aussi un véritable choix de vie où l'on sème du désir pour récolter du bonheur et de la sagesse. C'est du moins ce que laisse penser les tout derniers mots de conclusion du fameux conte philosophique de Voltaire, vous savez, le best absolu du bac de français, Candide ou l'optimisme. Et d'ailleurs, pensez à réviser, un mois de mai, il faut commencer à réviser.
Et si je me souviens bien, cela dit quelque chose comme « il faut cultiver son jardin ».
Absolument, vous vous souvenez bien, cher Ali, par cette invitation, notre Voltaire national nous conseille de ne plus perdre notre temps à courir derrière des mirages. Le jardin est ici ce qui compte, ce qui constitue à la fois le cœur de notre vie et la tâche à accomplir pour s'accomplir soi-même. Pas besoin donc de jardin au sens strict pour le cultiver, et ça c'est la bonne nouvelle. Le jardin devient finalement la métaphore pour désigner tous les espaces à soi et jusqu'au plus secret, jardin secret de notre vie intérieure, jardin intérieur. Et si l'on veut être heureux, il va donc falloir continuer de le cultiver. Pourquoi ? Eh bien là, c'est un autre philosophe du jardin qui a la réponse, c'est Épicure. Et il a même fondé son école de philosophie dans son jardin, qu'on appelle donc le jardin. Voilà, les épicuriens, ils se réunissent au jardin. Pour Épicure, le bonheur consiste à désirer des choses simples et non pas des désirs infinis. Désirer être en bonne santé, avoir de quoi se nourrir, mais surtout être entouré de ses amis et pouvoir passer du temps à discuter avec eux. Autrement dit, ça suppose de défricher, de biner, de tailler nos propres désirs dans notre jardin intérieur pour ne garder que ceux qui pourront donner du fruit ou de jolies fleurs et pour se débarrasser des herbes mauvaises qui grimpent partout ou qui étouffent le reste. Voilà, cultiver son jardin, vous l'aurez compris, c'est se cultiver soi-même, c'est entrer dans un nouveau rapport à soi où compte le travail sur soi-même. De même que l'on peut tailler un arbre ou donner une forme à un buisson, eh bien on peut se tailler soi et donner certaines formes à nos désirs et à notre manière de voir la vie. Et c'est aussi apprendre à faire face aux aléas de la météo de nos vies, les maladies, les ruptures amicales, la mort, la force de préparation, de patience et de soins. On peut aussi y faire face. Et c'est beau parce que c'est entretenir au fond la conviction que notre bonheur dépend de nous et non pas d'un destin où tout serait déjà écrit. Voilà le paradoxe, hein. Bien qu'il soit clos ou du moins limité, le jardin est toujours un espace de liberté.
Guillemette.
Alors déjà, si on se taille soi-même, ben je peux dire que Thibaut de Saint-Maurice est un très bel arbre. Hein. Non, mais en fait, ça m'émeut, la chronique de Thibaut, parce que ça me fait penser à ma maman. En fait, elle jardinait tous les week-ends. Tous les week-ends, elle me demandait de la rejoindre dans le jardin. Et pratiquement tous les week-ends, je n'y allais pas. Et je la laissais jardiner seule. Et aujourd'hui, je m'en mords les doigts, mais un truc de malade. Je regrette de ne pas être allée jardiner avec maman. S'il y a des jeunes qui m'écoutent, beaucoup plus jeunes que moi, hein, franchement, si vos parents vous disent « viens au potager avec moi », allez-y. Parce qu'en fait, on cultive non seulement son jardin, mais on cultive ses souvenirs aussi en jardinant.
Oui, et puis vous savez que lorsqu'on jardine avec ses parents, avec des gens à qui on tient, le silence est plus important que les mots.
Goran, vous qui avez abandonné une carrière de philosophe, vous pratiquez donc la philosophie dans votre jardin ?
Bah oui, au final c'est une philosophie de vie, hein, la permaculture, dans tous les sens du terme, dans la réflexion, dans la mise en place, dans la mise en pratique, c'est une philosophie quotidienne, quoi.
Lola Perrier.
Oui, je suis d'accord. Et puis, je pense que ce qu'on cultive reflète un peu ce que l'on est, en fait. Les variétés qu'on choisit, comment on va aménager tout ça. Oui, tout à fait.
En tout cas, on vous sent très, très épanouis les uns les autres. Allez, dans un instant, après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres de Grégory Cohen, ce sera juste après avoir écouté Étienne Dao. Respire.
L'homme se consuma tout peu. Le charbon et les paupières en feu, sa anesthésie de poison sans visage, et des chants de sirènes de passage. Le soir progresse et son manteau de givre s'étend sur ses mille visages, et il dérive de séduction survie au grand art de l'esquive. Il esquive comme une peau de satin de serpent, sa muse se dissout dans la nuit d'argent. Les eaux qui flambent vont se disperser, et l'aveuglé de paillettes d'acier. Lorsque ta vie ne semblera plus t'appartenir, tu chercheras à t'enfuir, te reconstruire. Ouvre grand les bras, gonfle ta poitrine et respire. Bien sûr, tous les gens du passé, tous les vampires, chercheront à te retenir, à te salir. Laisse un pur oxygène lentement t'envahir et respire. Dresse-toi dans le ciel bleu clair de Paris. Les drapeaux hissés flottent haut et irradient. Les cloches à toute volée vont retentir. Laisse un pur oxygène lentement t'envahir et respire. Respire. Respire.
Étienne Daou interprété Respire. Grégory Cohen, au menu de ce week-end, une recette gourmande et végétale.
Alors, une recette gourmande et végétale qui est issue de mon potager. D'ailleurs, je voudrais dire que souvent, on se dit que pour un potager, il faut de l'engrais et du pesticide. Pas pour les potagers qu'on va faire chez soi. On n'en a pas particulièrement besoin si on utilise toutes les trucs et astuces que nous ont dit nos invités. Alors, pour cette recette-là, on va utiliser des petits légumes et on va faire des petits farcis avec la chair des légumes, entre autres, à laquelle on va rajouter deux ou trois petites choses. Alors, il nous faudra 4 tomates rondes et de couleur, tiens, pour changer, pourquoi pas, des cœurs de bœuf, des noirs de Crimée, des verts zébras ou même des ananas, ça fonctionne très bien, c'est beaucoup plus joli. Et il nous faudra des courgettes boules, ça c'est sympa aussi, des petits poivrons cornes.
Ce sont les allongés
Oui, ce sont les allongés. Mmh. Et puis, 2 gousses d'ail, 1 oignon jaune, 100 grammes de riz sauvage, 100 grammes de lentilles corail qui amèneront la protéine nécessaire, 50 grammes de parmesan râpé, un œuf pour le liant et du persil plat, du thym, du sel et du poivre. On va commencer par préchauffer son four à 180 degrés et on va décapiter nos légumes. On va leur couper la tête, on va les vider délicatement. On va réserver la chair, on va cuire le riz, les lentilles, émincer l'oignon, l'ail qu'on va faire revenir dans un peu d'huile d'olive avec la chair des légumes. Et on va assaisonner, alors c'est là où on va pouvoir donner une couleur, la couleur qu'on veut à notre recette. On va pouvoir l'assaisonner soit de paprika, soit de cumin, soit de gingembre, soit de curry. Et du coup, on aura des recettes du monde un petit peu différentes. Et ça va être assez génial. On ajoutera ensuite, hors du feu, le riz, les lentilles, le parmesan, l'œuf, le persil, le thym. Et puis, on va mélanger le tout. On va remplir nos petits légumes avec cette préparation. On va les disposer farcis, donc, dans un plat. Allons au four, évidemment, mettre un filet d'huile d'olive dessus, un petit fond d'eau en dessous. On va les enfourner 30 minutes à couvert d'un papier cuisson. Puis ensuite, on va retirer ce papier cuisson, on va les mettre sous la salamandre pendant 7 minutes pour les gratiner. Et voilà, c'est une recette méga simple, super bonne et hyper complète.
Merci Grégory pour cette recette absolument gourmande, Guillemette.
Ah bah la niçoise plus soie. Après, vous pouvez faire ça avec d'autres légumes, avec plein d'autres légumes aussi. On peut faire des trucs très très marrants.
Bah,
les oignons farcis, les petits oignons farcis, c'est super bon aussi.
Oui. La recette de Grégory Cohen à retrouver sur votre compte Instagram, Grégory Cohen off avec
2F.
Merci aux amis du vendredi, Thibaut, Guillemette, Christilla et Grégory. Merci beaucoup Lola Perrier, un potager haut en couleur, c'est publié chez Marabout. Merci Goran, le permaculteur, on vous retrouve sur votre compte Instagram très suivi, le permaculteur. Merci Philippe Collignon, un potager pour les nuls. Et le petit guide du carré potager, c'est publié chez First. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 9h30 dans l'émission Bel et Bien, co-présentée avec Agathe Le Caron, et lundi dans Grand Main Vous Fasse, deuxième partie de notre émission consacrée à l'alimentation du cerveau, où l'on s'attardera sur l'alimentation des bébés et des enfants pour un cerveau en pleine forme.